l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Récemment, une marque étrangère a fait beaucoup parler d'elle sur les plateformes réservées aux jeunes mamans sud-coréennes. Mais alors pour quelle raison ? La réponse dans un instant. Il s'agit de Mini Rodini, une marque de vêtements suédoise pour enfants jouissant d'une popularité grandissante en Corée du Sud. Elle a présenté sa collection de printemps et d'été baptisée Mini Rodini à bord d'un train transsibérien, la destination finale, Séoul. Parmi les nouveaux produits, on peut remarquer un t-shirt arborant un tigre avec le nom de la marque écrit en Hangul, l'alphabet coréen, Mini Rodini. D'ailleurs, le dessin semble avoir emprunté le style du Minhwa, la peinture populaire coréenne. Sur un autre t-shirt, on peut voir une licorne qui est en train de prendre des nouilles servies dans un bol à l'aide d'une paire de baguettes. Sur le bol, on peut lire une expression inscrite en coréen, Chegoi Guksu, signifiant « les meilleures nouilles ». Certaines consommatrices sud-coréennes se sont dites agréablement surprises comme suit. Au début, ça faisait bizarre, mais plus je regardais, plus ça semblait joli. Selon un professionnel, certaines marques étrangères utilisent le Hangul comme une stratégie d'atterrissage en douceur sur le marché sud-coréen, sans oublier la montée en puissance de la K-pop boostée par le secteur BTS. Cependant, cette mode ne date pas d'hier. Depuis quelques années, plusieurs marques mondiales intègrent l'écriture coréenne comme un élément de design, et le secteur des vêtements pour enfants a tendance à suivre les marques pour adultes avec une année de retard. La fameuse maison de haute couture française Chanel s'y est mise lorsqu'elle a participé au Cruise Fashion Show organisé au Dongdaemun Design Plaza à Séoul en 2015. Son directeur artistique de l'époque, Karl Lagerfeld, a fait inscrire sur les vêtements à présenter quelques mots en Hangul comme la Corée, Séoul, Coco, Chanel ou Mademoiselle. En 2018, la marque américaine Ralph Lauren a fait de même pour l'uniforme de l'équipe nationale des États-Unis à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, de manière à imprimer Pyeongchang en alphabet coréen sur le t-shirt de Team USA. La même année, un célèbre styliste belge, Raf Simons, a proposé des sacs fabriqués avec des tissus d'emballage de produits du terroir sud-coréen très connus, comme le kaki de Sangju ou l'ombrine séchée de Bob Songpo. En 2019, Hermenegildo Zegna, une marque de luxe italienne de la mode masculine, a fait inscrire son nom en Hangul sur les blousons et les pullovers de sa nouvelle collection. Cela montre bien que la Hallyu, la vague culturelle coréenne, poursuit son expansion dans une nouvelle dimension. On aimerait tous savoir d'où vient ce qu'on mange. Ainsi, les consommateurs d'aujourd'hui sont plus vigilants à l'étiquette mentionnant l'origine des produits. Certains citadins vont plus loin. Ils sont de plus en plus nombreux à confier sous contrat la culture d'un produit de son choix à un agriculteur. Voici trois cas de figure qu'on trouve dans la province de Chungcheong du Nord. Ce printemps, un apiculteur s'occupe attentivement des ruches sur une zone forestière située dans la commune de Gadok de la ville de Chungju. Or, ces colonies d'abeilles ne lui appartiennent pas, mais sont à ses clients qui souhaitent goûter du miel naturel. En automne, chacun d'entre eux recevra un kilo de miel récolté. Dans la commune de Sekguk du district de Humsang, une ferme cultive différentes variétés d'arbres à café choisies par ses clients et leur fournit aussi un service de transformation de grains récoltés sur demande. Selon son patron, ce sont des amateurs de café qui voudraient savoir comment la plante de leur choix pousse et quelles saveurs donneront ces grains. Dans la commune de Namsang de la ville de Chungju, une ferme propose de fabriquer des sauces ou pâtes fermentées traditionnelles comme le kanjang, la sauce de soja, le twenjang, la pâte de soja, ou le gochujang, la pâte de piment rouge. En effet, il n'est pas évident pour une citadine de réussir toute seule à préparer ses condiments fondamentaux chez elle. C'est donc gagnant-gagnant, les consommateurs sont rassurés sur l'origine de leurs produits cultivés sous contrat, tandis que les agriculteurs y trouvent une nouvelle source de revenus. « Les fabricants de boissons alcoolisées ont pour coutume de choisir comme égérie de leur marque de jeunes stars féminines populaires. Ainsi, on trouve ces jours-ci la chanteuse et actrice IU et Jennie du girls group Blackpink sur les panneaux publicitaires de l'une des deux plus grandes marques de soju, l'alcool populaire coréen. Or, on ne pourra bientôt plus voir un tel paysage, parce que le gouvernement renforcera la réglementation de la publicité concernant les boissons alcoolisées. Le ministère de la Santé publique et du Bien-être a récemment annoncé la notification préalable d'un projet de révision de la loi visant à élargir l'interdiction de la publicité pour l'alcool. Selon ce texte, il sera interdit à partir du 30 juin prochain d'installer en plein air une publicité contenant l'image de toute bouteille d'alcool ou le nom d'une marque en la matière. Autrement dit, les fabricants ne pourront plus placarder leurs camions ou autres véhicules d'une publicité de leurs produits alcoolisés, ni poser de grands panneaux dans la rue ou installer des spots publicitaires multimédia sur les toits des immeubles. Et ce n'est pas tout. Il sera également interdit de diffuser toute publicité sur une boisson alcoolisée entre 7h du matin et 10h du soir sur tous les réseaux de communication, que ce soit à la télé classique ou dans les émissions par Internet. Les fabricants concernés n'auront plus le droit de mettre en avant leur marque lorsqu'ils sponsorisent un événement. Ce projet de loi a été déposé dans le but de protéger les enfants et adolescents de la publicité sur l'alcool. Selon les statistiques de 2020, 15 collégiens ou lycéens sur 100 ont répondu avoir consommé de l'alcool au cours des 30 derniers jours. D'après une association civile luttant contre l'alcoolisme et le tabagisme des adolescents, cette situation s'explique par la stratégie de marketing actuelle. Cette dernière consiste à afficher des stars idolâtrées par les ados dans les pubs de boissons alcoolisées, alors que la clientèle principale et les adultes. Cependant, un tel durcissement de la réglementation a provoqué un tollé général chez les fabricants et les petits commerçants. Selon eux, elle risque de faire chuter davantage les ventes de boissons alcoolisées et de rendre ainsi la situation encore plus difficile en pleine crise du Covid-19. Selon un spécialiste, il serait préférable de réglementer la publicité en question de façon progressive et plus ciblée. Par exemple, il serait possible d'accorder une dérogation pour les zones peu fréquentées par les adolescents selon les tranches horaires.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani. Un petit coup de pinceau peut coûter cher. Ça s'est passé le dimanche 28 mars dans une galerie du Lotte World Mall, le grand centre commercial situé dans l'arrondissement de Songpa à Séoul. Quelqu'un a laissé 3 taches vertes au centre d'une œuvre d'art dont la valeur s'élève à 500 millions de won, soit 370 000 euros. C'est John Wan, l'un des plus célèbres artistes de graffiti au monde, qui a réalisé ce tableau intitulé Untitled lorsqu'il est venu en Corée du Sud en 2016. Une demi-heure après l'incident, l'organisateur de l'exposition l'a découvert et grâce à la vidéo de surveillance, il a pu identifier l'auteur avant de le signaler à la police. C'était un jeune couple en sortie amoureuse. Or, ce n'était pas du vandalisme gratuit, mais une simple erreur. En effet, les deux jeunes amoureux croyaient qu'il s'agissait d'une exposition participative en voyant les pinceaux et les pots de peinture posés en bas du tableau, qui faisaient en partie, en réalité, de l'œuvre. Ils n'ont pas lu la notice sur le graffiti, d'où une telle méprise. Comme ce n'était pas intentionnel, l'organisateur a décidé de ne pas porter plainte contre le couple fautif. John Wan était du même avis. La semaine dernière, il a affiché sa volonté de pardonner le jeune couple. Toutefois, le graffitiste a souhaité que son œuvre endommagée soit restaurée à son état d'origine. Le coût de restauration est estimé entre 8 000 et 10 000 euros. Certes, l'organisateur pourrait le payer grâce à son assurance qui couvre un tel accident, mais dans ce cas, l'assureur se retournerait contre le jeune couple. Donc, il cherche à trouver une autre solution qui n'accable pas les deux amoureux. Un tel incident n'est pas un cas isolé. En Italie, au musée Bolzano en 2015, des agents d'entretien ont jeté à la poubelle une installation artistique composée de mégots, de bouteilles de vin vides et d'autres objets éparpillés par terre. Ils ont été pris pour les restes d'une fête de la veille. Justement, c'était le thème de l'œuvre et la scène prêtée à confusion. en Corée du Sud, au musée d'art Bok Seoul, en 2019, les spectateurs ont mis debout une statuette de l'ange que l'artiste avait couchée sur le sol afin de symboliser un musée en ruine. Et il y a 2 ans, un octogénaire a abîmé un char de combat datant de l'Empire romain, exposé au musée national de Corée en le touchant par curiosité. Finalement, personne n'a été obligé de rendre des comptes sur le plan juridique, heureusement. Toutefois, il faudra en tirer des leçons. L'organisateur de l'exposition devra mettre en place un dispositif plus sécurisant pour les œuvres et faire davantage d'efforts didactiques auprès des spectateurs afin d'éviter de tels incidents. Avec la crise du Covid-19, nous sommes nombreux à renoncer à nos activités culturelles telles que la visite de musées. Dans ce contexte, il y a une belle initiative dite « Musée à la nuit étoilée ». Il s'agit d'aménager une salle d'exposition dans un conteneur et de le poser là où on veut, de sorte que les habitants puissent apprécier des œuvres d'art au cours d'une promenade sur un sentier de jardin ou de parc près de leur domicile. Ce projet est réalisé dans le quartier de Xincheng à Gwangju, une ville située dans le sud-ouest du pays. Vers 18h, le musée conteneur se réveille, l'éclairage s'allume sur le panneau bleu, le rideau se lève automatiquement et quelques tableaux de fleurs printaniers sont exposés. Des promeneurs s'arrêtent devant la baie vitrée. Une certaine Li est ravie de découvrir cet espace. Elle est tombée dessus par hasard et elle trouve les tableaux agréables à regarder. De plus, ce musée conteneur fait régner une belle ambiance dans son éclairage nocturne. Selon le responsable de ce projet, chaque mini-musée en conteneur est équipé de tout ce qu'il faut comme une véritable salle d'exposition. Notamment le système de contrôle automatisé pour régler le rideau, l'éclairage, le thermostat et l'hygrostat. Le soir, le musée s'ouvre tout seul et dès minuit, la lumière s'éteint et le rideau se baisse. Au début de l'année dernière, la ville de Suncheon a pris une initiative similaire sous le nom de musée ouvert au coucher de soleil dans le parc du lac Jolé. Cette année, à Gwangju, la mairie de l'arrondissement de Gwangsan a installé 5 musées en conteneurs dans des parcs. Elle prévoit d'y exposer au total quelques 200 œuvres d'une cinquantaine d'artistes de différents genres, tels que la peinture classique, le media art et la calligraphie. Au temps du Covid-19, où le distanciel s'impose, une troupe de théâtre propose une nouvelle façon d'aller à la rencontre du public. Il s'agit de faire prêter l'oreille. Une telle initiative est prise par le cercle littéraire baptisé Gualho, signifiant « parenthèse ». Celui-ci, créé en 2019, est composé de 4 jeunes femmes auteurs de pièces de théâtre et d'un jeune critique dit « dramaturge ». Il a lancé 2 projets innovants. Le premier consiste à produire leurs œuvres scéniques sous forme de drama audio et de la poster en ligne. Il est intitulé « Pièces de théâtre à écouter en tendant l'oreille » aux parenthèses. La distance physique n'abolit pas l'intimité. Lorsqu'on écoute ce drama, c'est comme si on était présent sur place. Le second consiste à publier la revue trimestrielle « parenthèse » via un service de mailing. Dans le monde littéraire, le service en newsletter existait déjà pour proposer un envoi régulier d'œuvres d'autres genres tels que les essais, les romans et la poésie, mais c'est inédit pour des pièces de théâtre. 4 auteurs de parenthèses assurent à tour de rôle une œuvre chaque semaine tandis que leur dramaturge rédige une critique sur l'ensemble des œuvres. Selon elle, cette modalité a un grand avantage en ce qu'elle permet de recevoir très rapidement des retours de lecteurs. Le cercle parenthèse a lancé ses projets au second semestre 2020 où le renforcement de la distanciation sociale a commencé à rendre presque impossible les représentations théâtrales. Mais ce n'était pas une simple mesure palliative. 4 jeunes auteurs réfléchissent à de nouvelles modalités qui pourraient permettre de présenter leurs pièces de théâtre aux lecteurs, aux spectateurs et aux auditeurs, d'autant plus que la barrière est mise très haute pour les nouveaux arrivants sur le marché du spectacle. Par ailleurs, elles voulaient sortir de leur isolement. En effet, l'auteur d'une pièce de théâtre se retrouve souvent exclu et seul des autres dans les salles de répétition ou de représentation, et une fois l'œuvre terminée, son œuvre est à la merci du metteur en scène ou des comédiens sur les planches. D'où l'initiative de mettre en valeur la pièce de théâtre en soi avant son adaptation sur scène. Cette initiative a rencontré un succès honorable au point de décrocher le prix Art Change Up au concours organisé par le ministère de la Culture dans le but de partager des initiatives de soutien en ligne aux activités artistiques.
Une joie partagée est une double joie, un chagrin partagé est un demi-chagrin. Il y a des gens qui vivent des moments magiques en partageant les joies et les chagrins des personnes dans le besoin, dont les sans-abri, les personnes âgées isolées, les malades. Cette semaine et la semaine prochaine, Saveur du terroir vous invite à la rencontre de bénévoles qui se disent très heureux de préparer de bons plats pour des personnes en difficulté. Notre première destination est une petite ruelle du district de Bichuhul de la ville d'Incheon. Ici, le prêtre Han prépare un repas gratuit tous les vendredis, samedis et dimanches pour les personnes âgées isolées. Avec les bénévoles qui viennent l'assister, il prépare un menu pour 500 personnes, le Jumokbap. On mélange le riz cuit à la vapeur avec divers ingrédients dont les petits anchois séchés et assaisonnés bialti, l'algue marine séchée et salée coupée en morceaux fins kim et le navet saumuré et vinaigré tamuji avant d'en façonner des boulettes. Il s'agit d'un menu créé en tenant compte de la situation sanitaire actuelle du Covid-19 qui ne permet pas de rassemblement massif. Pour l'accompagner, on prépare également une soupe, le doenjanggukOn fait infuser la pâte de soja fermentée doenjang fait maison avec soin, le navet, le laminaire et l'oignon, et cela devient un plat liquide d'une saveur bien profonde. Pour ceux et celles qui viennent attendre en avance pour être servis, M. Han ne manque pas de préparer le hamuktang, la soupe dans laquelle sont trempées des brochettes de pâtes de poisson. Dans le bouillon bien succulent à base d'anchois séchés, laminaires, racines de ciboule et oignons, on trempe des brochettes de pâtes de poisson et les fait cuire. Les gens qui font une longue queue en attendant le repas peuvent assouvir leur faim avec un bol de hamuktang. Selon M. Han, il n'aurait jamais osé se lancer dans cette aventure sans l'aide de son entourage. En effet, diverses personnes ont voulu faire don d'une manière ou d'une autre pour que ce projet puisse se poursuivre sans difficulté. Ainsi, son entrepôt est toujours rempli de divers produits nécessaires pour cette mission noble. Déplaçons-nous dans l'arrondissement de Songbuk à Séoul. Dans un petit magasin de partage, on peut trouver divers produits d'occasion, dont des assiettes, des vêtements et des accessoires à un prix raisonnable. Tout le profit est utilisé pour aider les personnes porteuses d'une tumeur cérébrale. En effet, Madame Lee, présidente de l'association de lutte contre la tumeur cérébrale, a lancé cette affaire à cause de son fils qu'il a quitté à l'âge de 7 ans à cause de cette maladie. Les membres de cette association se retrouvent régulièrement pour tricoter des bonnets et préparer des repas pour les patients. Qu'est-ce qu'il prépare comme plat aujourd'hui? Tout d'abord, le kulpare butim, avec des huîtres fraîches saisonnières envoyées par un patient qui vit sur l'île de Crozet sur la côte est de la péninsule, on prépare un plat pour un autre patient. On mélange l'algue marine pare, le navet, les huîtres et assaisonne le tout de manière acide et sucrée à base d'huile de sésame et de piment en poudre. Il s'agit d'un plat qui réveille le corps et l'âme épuisée des malades. Avec la bardane ouan en pleine saison, on prépare le ouan japchae et le ojingo ouan kimchi. Si on peut apprécier divers légumes croquants assaisonnés à base de sauce soja avec le premier, on peut retrouver l'appétit avec le dernier qui associe la texture ferme sous la dent du calamar et la texture croquante de la bardane. En offrant ces plats nutritifs préparés avec beaucoup de soin, les bénévoles souhaitent un prompt rétablissement aux malades. L'histoire du miracle du partage des plats se poursuit la semaine prochaine.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à la rédaction, Franck Atlani au micro et Ho Ha-young à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée.